Oui, donc, le grand gaucher, là, ben oui, le premier
salut.
Podcast, là, le
ben oui,
podcast,
salut, Benoît Rioux, comment ça va?
Ça va très bien, très excité, je me sens comme, tu sais, avant le premier match de la saison, là, écoute, tastique ta tige, puis je sais pas si toi, tastique ta tige avant les matchs, là, mais tu veux que tout soit sous contrôle, mais tu sais pas si ton pintar est dans ton sac, puis c'est un peu comme ça je me sens. Là, je suis excité, nerveux un peu, mais regarde, c'est une belle aventure qui commence.
En tout cas, tu viens de nous partir ça vraiment fort. Moi, je voulais te remercier d'abord d'avoir accepté de plonger dans cette aventure-là du podcast avec moi, un podcast baseball. On va essayer de vous divertir le plus possible là, dans les prochaines semaines au cours de l'été avec ce magnifique sport qu'est le baseball. Ben, tu le sais, on en a discuté ensemble. Là, on va essayer de toucher à tout. Oui, il va y avoir de l'actualité du baseball majeur, mais on va parler du baseball au Québec. On va parler de l'équipement. On peut aller jusqu'à comment on choisit un bâton au baseball. On va parler des jeunes, on va inviter les gens à discuter avec nous. D'ailleurs, j'ai un courriel pour vous pouvez nous rejoindre. Le voici, là, lesbutsremplis@gmail.com. Là, commentaires, questions, vous voulez jaser de baseball avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Exactement. Le nom, les buts remplis, hein, c'est un peu ça. On a différents objectifs qu'on veut accomplir avec ce podcast-là, divertir les gens, parler de baseball, mais avoir un impact positif. Des choses comme ça. Donc, j'espère qu'on va pouvoir dire que nos buts ont été remplis. Puis quand les buts sont remplis, c'est là qu'il faut que tu sois clutch. T'sais. C'est là qu'il faut que tu step up. Donc, on est très fiers de notre nom. Puis, il y a une autre petite raison, là, Sylvain, là, si tu te rappelles bien pourquoi que je voulais que ça s'appelle les buts remplis.
Je le savais que tu allais aller là.
J'ai un seul circuit en carrière, puis les buts étaient remplis. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sylvain. Ah oui, c'était toi le lanceur.
Ouais, j'essaie d'oublier.
Donc, je trouve que ça nous rejoint tous les deux, ça, les buts remplis.
Mais Ben, comme c'est ton seul en carrière, je vais te laisser le savourer. Et je n'avais juste échappé une petite courbe que t'avais quand même bien frappé. Je sais que c'était la fête à ta blonde cette journée-là. Là, je t'avais fait un beau cadeau, la belle petite courbe qui reste suspendue. Tu ne l'avais pas manqué.
C'est un circuit que je pensais, tu sais, moi, je me disais, j'ai jamais frappé de circuit. Si ça arrive un jour, je vais le savourer. Puis là, je voyais la balle partir parce que le voltigeur de droite jouait un peu rapproché. Puis je vais passer par-dessus sa tête, tu sais, pour un double. Puis quand j'ai contourné le deuxième but, je courais à pleine vitesse. Puis j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, il est encore penché dans la clôture. Je pense qu'il vérifiait si c'était un double automatique. Je courais encore à pleine planche quand je suis arrivé proche de mon coach au troisième but. Puis il me dit, calme-toi, et à l'autre bord. Fait que je pense que même en deux, troisième but, puis le marbre, je ne réalisais pas encore. Mais en tout cas, merci pour l'offrande.
Ça fait plaisir. Moi, je l'avais réalisé assez tôt, j'étais un peu déçu, mais bon, c'est la vie. Ça fait partie du jeu, comme on dit. D'ailleurs, on va mettre
On
va mettre la table. Voilà, c'est les mots qui me manquaient ce matin pour l'enregistrement de ce nouveau podcast. Donc, on va parler un peu baseball. On va parler des Blue Jays dans les prochaines secondes. On a un invité de marque. On va tout de suite le teaser. C'est Douglas Taureau, le frère d'Abraham Taureau, le grand frère, en fait, d'Abraham Taureau, qui joue pour les Astros de Houston. Donc, il va venir nous donner des dernières nouvelles de son frère qui a malheureusement été rétrogradé dans les mineurs après le camp d'entraînement. Mais chose certaine, ça va être très, très intéressant de lui parler. Mais je trouve que pour un premier podcast, ça part fort.
Ah ouais, donc!
Fait qu'on commence tout de suite, Ben, si tu veux bien, avec les Blue Jays qui jouaient contre les Yankees de New York cette fin de semaine. Série de 3 matchs. Les Yankees en ont remporté 2. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Ben, que si on avait dit à Charlie Montoyo au début de la saison, au début, tu vas remporter 2 matchs à New York au Yankee Stadium, il nous aurait dit, c'est où que je signe? Les initiales, la signature, tout le kit, il aurait pris ça demain matin.
Non, absolument. Tu sais, quand on parle des Blue Jays et des Yankees, c'est deux clubs qui vont se battre probablement pour la tête de la section Est de la Ligue américaine. Donc, 3 très beaux matchs. Ça. Les amateurs de baseball ont été gâtés. Moi, j'ai été agréablement surpris par les releveurs des Blue Jays. Ouais. Mais le jeu complet, tu sais, défensivement, on a vu Biggio, Marcus Semien faire des beaux jeux. Tu sais, il y a eu le premier coup de circuit de Vladimir Guerrero-Fils, évidemment.
Mais d'ailleurs, Vlad, là, on va en profiter pour en parler tout de suite de Vlad, là, parce que moi, il m'a impressionné. Là. On sait qu'au cours des dernières saisons, c'était un peu décevant. Là. Il n'a comme pas livré la marchandise qu'on attendait. Il avait dominé dans les mineurs. Et là, j'ai senti que ses présences au bâton étaient beaucoup plus patientes, attendaient le tir. On lui reprochait de frapper trop de roulant par les années passées. On a senti là, qu'il avait tendance à vouloir pousser la balle. D'ailleurs, son circuit au champ opposé, on le voyait rarement faire ça dans les années passées. Un seul rétro-bâton, deux buts sur balle. Il a travaillé le compte sur les lanceurs et ça a fait toute la différence. Et s'il peut faire ça toute la saison, on peut voir Vlad le frapper pour plus de 300, c'est clair.
Mais dans le cas de Vlad, c'est l'entre-saison aussi là, qui a profité. Là. Tu sais, s'il augmente sa moyenne au bâton du même nombre de livres qu'il a perdu, il va avoir une très bonne saison.
Oui, on devrait bien s'en sortir.
Il a perdu une quarantaine de livres. Là, tu sais.
Puis, exact.
Non, très beau début de saison des Blue Jays. Je pense qu'ils vont être excitants à suivre. Tu sais, dans les joueurs un peu moins en vue, un gars qui m'a beaucoup impressionné, c'est Julian Merriweather. Hey, lui, il garoche la balle.
Mais hein, il a frappé le 100 000 à l'heure à plusieurs reprises cette semaine. Deux sauvetages. D'ailleurs, on a perdu Kirby Yates pendant le camp d'entraînement, qu'on pensait tous qu'il allait être le releveur numéro un des Blue Jays. Finalement, on l'a perdu pour la saison, opération Tommy John. Et là, on a été obligé de faire confiance à un genre de comité avec Romero et puis Merriweather. Et c'est Merriweather qui a fait les deux sauvetages. Et j'étais surpris avec la vitesse à laquelle il lançait. Et sa glissante. Sa glissante qui tombe à peu près autour de 89-90 là, vient faire toute la différence quand tu te fais lancer une rapide à 100 000 $ juste avant ou juste après.
Parlant de Romero, là, parce qu'il y a toujours des petits accros, là. Hey, les Blue Jays, ils ont-tu failli perdre le premier match à cause de Romero? Non, mais là, tu as Mike Touchman qui est au premier but, vole le 2, vole le 3. Hey, Romero, là, ça prend du temps. Là, t'sais. Puis là, c'est le catcher qui paraît mal, moi, tu le
ouais,
sais.
C'est
un receveur à... Un receveur à base dans notre ligue de bière, puis ça, c'est fâchant là, pour un receveur. Là. Là, t'as beau faire n'importe quoi, là, si ton lanceur prend autant de temps à t'envoyer la balle, là, le gars, il est déjà rendu sur le troisième but. Là. Puis une chance que Kevin Biggio a fait tout un jeu pour retirer Touchman au marbre,
ouais.
Parce que sinon, le match était terminé. Puis, tu sais, 1-2 ou 2-1, là, c'est... là, on parle d'un début de saison réussi pour les Blue Jays, mais ça serait un début de saison un peu en demi-teinte là, s'il avait perdu ce premier match-là.
Oui, exact. Puis là, on amorce la série contre les Rangers du Texas cette semaine. Et on va aussi affronter, on va commencer notre saison parce qu'on ne joue pas à Toronto pour le début de la saison du côté des Blue Jays. On va jouer à Dunedin. Donc, on va aussi attendre le début de George Springer dans les prochains jours.
Parlant des Rangers du Texas, oui. Là.
Vas-y.
On me demande de. On va y aller avec un coup de cœur puis un coup de masse ou quelque
Mais
chose
ben,
qui nous s'allume.
Ben, je t'arrête tout de suite parce qu'on a notre invité est là.
Ben,
on va pas patienter plus longtemps.
Ah, ouais,
on va parler du baseball majeur plus tard. Douglas Toro qui se joint à nous. Salut Douglas, comment ça va?
Ça va super bien, merci beaucoup. Ça va bien, vous autres?
Salut Douglas, yes. Merci d'accepter l'invitation. Écoute Douglas, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Là. Tu sais, moi, une question que je trouvais ça importante à te poser. Ouais. Tu sais, évidemment, quand on parle de Douglas, on parle d'Abraham. Mais il y a eu longtemps là, que Abraham, c'était le petit frère de Douglas. Tu sais, quand il était bad boy, il suivait au baseball, c'était le petit frère de Douglas. Maintenant, je sens que tu es un peu... Le grand frère d'Abraham. Je me demandais comment tu avais vécu ça. Tu sais, j'imagine que ça vient avec une fierté, mais tu sais, moi, je veux qu'on parle de Douglas Toro, là, qui est, regarde, je vais te le dire, là, tout un joueur de balle. Là.
Merci. Merci beaucoup. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je suis passionné du baseball. Je joue encore dans la Ligue senior élite du Québec. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je coach aussi. Je me suis associé avec Grand Chelem, que tu connais bien, puis je fais des cours privés, etc. Fait que là, je commence à revenir dans le monde du baseball un peu plus. J'étais présent comme joueur, puis là, j'ai travaillé à la banque pendant 8 ans, là, mais là, je retourne un peu à la source, là, à ce que j'aime.
Excellent. Parlant de Grand Chelem, c'est là que j'ai pris mon T-shirt, tu l'aimes-tu?
C'est cool, ouais. Nice.
Hey, Douglas, j'ai un trivia quiz pour toi ce matin. J'ai un trivia quiz. J'ai trois questions, OK, que j'ai, entre autres, Jacques Lanciot, qu'on connaît bien, là, qui est comme une bébite, là, tu sais, qui suit tous les joueurs qui ont été au collège américain, dans les universités. Donc, le trivia quiz, là, ça va être trois questions.
Je peux-tu jouer, moi? Je ne les connais pas, les questions, là. OK, c'est bon.
Tu peux jouer. Puis tu vas me dire, c'est qui détient le record? C'est-tu Abraham ou c'est Douglas? Donc, première question. Le plus de points comptés en une saison depuis 2000, soit dans les collèges ou les universités américaines? Douglas, tu dois connaître la réponse.
Je pense que ça l'a coupé. Excuse-moi, je pense que ça l'a coupé quand tu as posé la question.
Ah, je le sais, c'est parce que tu veux prendre le temps d'y penser. le plus de points comptés en une saison depuis 2000 dans les collèges ou les universités américaines. Est-ce que c'est Abraham ou c'est Douglas?
C'est de ce que je me rappelle, c'est Abraham.
Ouais, je suis d'accord.
Exactement, c'est Abraham avec 94 en 2016 pour le Seminole à Oklahoma, qui est un JUCO. Mais Douglas, hein, t'es pas loin, t'es à égalité.
Je me rappelle parce que... Ouais. C'est ça, je me rappelle parce que quand je voyais les matchs justement d'Abraham Community College, c'était vraiment un coup de circuit. Là, l'équipe peut frapper entre 4 et 6 circuits dans un match. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de points qui ont compté cette année-là.
Mais t'as pas à rougir, hein? Égalité au troisième rang, Douglas. 73 points comptés en 2009 avec l'Université Lynn en Floride.
Ouais.
Pas mal.
C'était une super belle saison parce qu'on a même gagné le championnat national. Fait que,
Envoyez-donc.
Yes.
Deuxième, le plus de buts sur balle en une saison, toujours dans les collèges ou les universités américaines, depuis 2000.
De mémoire, c'est moi, ça.
Moi, si je me suis à la logique, là, je suis sûr que tu as donné une réponse pour Douglas. Donc, Douglas.
48 buts sur balle, ouais. Douglas. La même année, 2009, ouais. Université Lynn. Ça, tu sais, pour un frappeur, là, des fois, c'est fâchant. Tu es content d'avoir le but sur balle, mais tu sais, surtout quand tu es à l'université comme ça, tu veux te démarquer, tu veux impressionner les dépisteurs. T'sais, les buts sur balle, c'est comme, OK, le gars a un bon œil, mais t'sais, ça n'aide pas pour le nombre de circuits et le nombre de hits. Là, t'sais. Est-ce que, comment tu avais vécu ça, les 48 buts sur balle? T'étais-tu comme, moins? T'sais, que...
Mais comment c'est vécu une des choses que je peux... C'est bonne question parce que c'est un excellent point. C'est que je parle aux jeunes puis je leur dis, c'est trop difficile de frapper. Prenez les buts sur balle. Des fois, si tu te donnes, prends-le.
Excellent. Troisième question pour mettre fin au trivia quiz, Douglas. Celle-là est embêtante. Là. Puis là, j'ai délaissé Jacques Lanciot pour aller dans les records de la LBJEQ. Donc, qui détient le record de plus de retraits au bâton sur décision en une saison? Le plus de retraits au bâton sur décision en une saison dans la LBJEQ.
Wow. Wow, c'est punchy.
Je vais arrêter de te faire languir. De...
C'est ni un ni l'autre.
Ni Abraham, ni toi.
Ah, okay, voilà.
C'est une blague que je voulais faire. C'est un joueur qui jouait pour les Bisons de Saint-Eustache en 2000. Je vais taire son nom. C'était 27 retraits au bâton. Je vais taire son nom. Mais il est directeur général de Baseball Québec aujourd'hui. On salue Maxime.
on va être obligé de l'inviter sur le podcast pour qu'il puisse se défendre de cette belle statistique.
Ah, c'est un record qu'il partage. Là, fait que,
OK, bon, quand même.
Écoute, Douglas, on peut pas t'avoir avec nous sans demander un peu des nouvelles d'Abraham. Comment est-ce qu'il va? C'est qu'il a été un peu... retranché dernièrement. Il y a un Rubel Garcia qui est arrivé, joueur autonome. Il a un peu tassé en même temps. Ça va lui permettre de peut-être jouer à tous les jours. Comment que Abraham va, je dirais mentalement, puis même physiquement aussi, parce que je sais qu'il a été sur la liste du protocole de la COVID.
Exact.
Merci pour demander, Ben. Il était vraiment sur la liste, comme tu l'as mentionné, par précaution, donc, comme beaucoup de joueurs. Il est correct, il a fait ses tests, il était négatif à deux reprises. Fait que là, il a pu. Là, maintenant, il est avec l'équipe qu'on appelle le Taxi Squad. Fait que c'est là qu'il est présentement. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est difficile. Depuis qu'ils l'ont monté des majeurs, puis moi, honnêtement, je peux même pas comprendre qu'est-ce que les Astros font, parce que Abraham était, en 2019, le joueur de l'année de toutes les ligues mineures. On parle d'un joueur qui était en pleine croissance, il a frappé en 300, c'est un dominant, mais même avant ça, il a toujours fait des équipes d'étoiles. Et quand tu frappes 3-4 dans le line-up, tu peux pas monter un gars dans le show puis le faire bencher. Ça ne marche pas. Prospect, souvent ce que les équipes font, c'est que ça soit qu'ils échangent un gars pour leur donner la place, ou ça soit que le prospect s'est fait échanger. Ils l'ont super mal utilisé, ils ne font pas jouer constamment, ils font jouer ici et là, même quand il y a une bonne séquence, ils vont le faire bencher après. C'est un rôle qu'il n'a jamais eu. Pas qu'il n'a jamais eu, c'est que c'est même pas pensable quand il était dans la Ligue mineure. Fait que c'est un rôle pour un joueur, peut-être comme Diaz, qui est avec les Astros, un vétéran beaucoup plus vieux, mais c'est pas un rôle pour un prospect. Abraham a la chance d'être un All-Star. S'il a été un All-Star des mineurs, pourquoi qu'il pourra pas être dans les majors? La tendance a toujours été là. Dans les A, dans le 2A, dans le 3A, il a toujours été un All-Star, il a toujours été bon. Fait que pourquoi pas dans les majors? La seule chose qu'il a besoin, c'est avoir sa chance, puis malheureusement, il ne l'a pas eu.
C'est la suite logique, curieux, dans le sens que l'année dernière, ils l'amènent, puis ils font bencher beaucoup, puis cette année, ils décident qu'il serait mieux de jouer tous les jours. T'sais. Tandis que la suite logique aurait voulu que peut-être l'année dernière, il fallait jouer tous les jours tant qu'à le faire bencher. T'sais. Puis cette année, il est rendu à être un joueur plus régulier. Tu comprends ce que je veux dire?
Il semble que la suite les prospects, c'est ça. C'est ça. T'sais, les Dodgers, il y a un gars qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, il s'appelle Lux, là, son nom de famille, c'est un joueur de deuxième but. C'est ça qu'ils font. C'est qu'un prospect, exactement, on lui donne sa place. Exactement. Puis pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je ne peux pas te le dire. L'année passée, même en série, là, il y avait des gars qui nous autres, nous trois, on aurait pu mieux faire peut-être qu'eux. Puis Abraham était sur le banc. Imagine. Vrai, toi. Non. On aurait pu faire aussi bien que des joueurs. Puis tu sais, ça l'arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que imagine un gars, un jeune joueur. Tu es un All-Star. Tu es un athlète professionnel. Tu as toujours bien fait. Puis même si ça marche pas dans ton équipe, si les joueurs font pas leur travail, même à ça, on te donne pas une chance. Imagine le message qu'on envoie à ce gars-là, c'est que techniquement, là, même si quelqu'un meurt, tu joueras pas. C'est ça le message qui a été envoyé à Abraham l'année passée, là, parce qu'il y avait des gens qui ont frappé, mais tu sais, je veux dire, ils ont tellement pas bien frappé, puis il n'y a aucune opportunité de jouer pareil. Fait que c'était difficile, honnêtement, pour un athlète. Ça peut être un jeune, ça peut être un adulte. Puis c'est là que ça a été très difficile pour moi à comprendre. Puis je parle pas juste pour Abraham, je parle aussi pour d'autres joueurs qui étaient là avec lui sur le banc. Il y a personne qui a joué, c'est pas compliqué. Ils ont juste laissé la même équipe tout le long des séries.
Ce qui est un peu dommage pour Abraham cette année, c'est qu'il a quand même très bien fait là, au début du camp d'entraînement. T'sais, il frappait la balle d'aplomb, là, des doubles, je pense qu'il en a frappé quatre. Puis t'sais, Dusty Baker s'est dit satisfait, mais en même temps, t'sais, il garde Garcia, t'sais, qui c'est comme... On ne comprend pas trop. T'sais. C'est sûr que nous, particulièrement à toi, tu as à cœur, on a un parti pris, si on veut, là, mais c'est dommage parce qu'il avait très bien fait dans le camp d'entraînement. Maintenant, aujourd'hui, je pense, Douglas, tu as joué ton rôle de grand frère, puis j'imagine que tu es de très bons conseils pour lui parce que non seulement tu es un grand frère, tu connais la balle. Fait que j'imagine que vous parlez régulièrement, puis c'est de continuer de l'encourager.
Oui, effectivement, tu sais, c'est top à trouver les mots, hein, comment lui parler, surtout, parce qu'il sait, là. Fait que c'était difficile à trouver les mots pour moi et ma famille, mais il sait qu'on est là, on l'appuie, on l'a vraiment donné son espace. Ce qui était difficile, Ben, encore une fois, dans le sprint training, c'est la même situation qui se répète. Si tu as deux gars que tu dis, mais je vais prendre un de ces deux gars-là, fais-les jouer les deux, fais-les compétitionner les deux, à la fin du camp, c'est lui qui a mieux fait, tu le prends, c'est tout. Ça, c'est correct. Mais c'est la même chose. Il y avait des games, il y avait des bonnes games, il jouait sur le banc, il jouait sur le banc, il y avait une game, il y avait un at-bat ici, on l'a enlevé. C'est pas une compétition, ça. Tu peux pas compétitionner comme ça. Fait que mais c'était pour Abraham et aussi pour Garcia aussi. Les deux, ils n'ont pas pu se montrer. C'est sûr que la malchance pour cette fois-ci, c'était du côté d'Abraham, mais ça aurait pu arriver à Garcia aussi. Le point, c'est qu'il faut vraiment établir une procédure pour dire, mais s'il y a deux gars qui vont se battre, c'est eux qui doivent jouer. Parce que Bregman allait faire l'équipe, Altuve allait faire l'équipe, tous ces gars-là qui allaient faire l'équipe. Fait qu'eux autres, ils se battaient pour rien. Ils n'étaient pas en train de se battre avec personne. T'sais. Mais c'est ça qui est arrivé dans le spring training. J'ai vu, tout le monde a joué de la même façon, puis ils ont même mis des joueurs des mineurs qui n'allaient même pas être dans les plans de l'équipe futurement aussi jouer. Fait que c'est ça, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais c'est des. Dusty Baker, c'est un joueur old school. Puis je pense que lui, il va avec la réputation avant tout. Puis depuis l'année passée, c'est exactement ça qu'il a fait, là.
Comment il a perçu ça, Abraham, en fait, de voir Garcia arriver, été pris, sélectionné au ballottage par les Astros. Finalement, c'est un peu lui qui prend la place d'Abraham. Abraham qui va peut-être avoir la chance de jouer à tous les jours dans les mineurs, mais quand même, tu veux toujours rester dans le show quand tu as une opportunité de rester dans le show. Comment il l'a pris, Abraham? Est-ce qu'il l'a pris comme un défi de revenir dans le show ou il a peut-être été plus frustré de voir qu'un joueur comme Garcia, qui a, by the way, jouer encore moins bien qu'Abraham dans le camp d'entraînement, prendre sa place.
C'est sûr que t'sais, Garcia, bonne question. Garcia, c'est lui, c'est un joueur, puis il faut qu'il fasse sa place. Mais c'est encore une fois, quand tu t'es fait repêcher par une équipe, tu montes les échelons. Pas juste que tu montes les échelons, tu performes à chaque niveau. Et là, tout à coup, on prend un gars, comme tu dis, qui vient d'ailleurs, puis que c'est dur à comprendre. C'est que. Il y a une psychologie du baseball, puis celle-là, je peux même pas l'expliquer. C'est même avec mon frère, on a même évité de parler de ça parce que ça n'a rien à voir avec le joueur en question. C'est que je ne suis pas sûr de la chose où on va voir Abraham. Je suis pas sûr s'ils ont des plans pour Abraham. Mais ce qu'on peut pas faire à un joueur, puis je le dis même ici au Québec, aux États-Unis, on s'en fout partout, on ne peut pas garder un joueur avec un talent comme Abraham Toro dans un banc. On ne peut pas faire ça à personne. Si tu vas laisser un joueur comme ça dans un banc, échange-le, puis amène quelqu'un que tu vas faire jouer. Puis ça, écoute, c'est quelque chose que les coachs doivent penser un peu plus parce que c'est dur psychologiquement dans un banc. Tu sais, je l'ai vécu plus jeune, honnêtement, j'étais dans le junior élite, j'étais meilleur que la plupart, j'ai joué sous le banc, puis je peux même pas dire pourquoi, là. Puis c'est tough. C'est tough d'être assis sur le banc quand tu sais que t'es bon, quand tu sais que tu frappes 3-4, quand tu sais que tu t'es accompli, puis que la seule chose que tu fais, c'est donner des high fives à tes joueurs, à tes coéquipiers. Là, c'est pas quelque chose qui est facile pour personne.
Non, tant qu'à moi, c'est le travail le plus difficile d'un joueur de baseball, là, de jouer sur le banc. Quand tu joues à tous les jours, là, tu réfléchis pas, tu arrives avec ton gant, ton bâton, tu t'en vas faire tes trucs. Quand tu es sur le banc, tu sais jamais à quel moment on va avoir besoin de toi. Hein, puis il faut que tu performes à ce moment-là. Ben, si tu performes pas, tu vas encore plus rester sur le banc. Le temps file, là, Douglas, on va te laisser aller. Mais merci beaucoup d'avoir fait partie de notre podcast, notre première émission. On est très, très heureux. On souhaite énormément qu'Abraham puisse saisir sa chance et revenir dans le show parce que pour vrai, c'est comme on dit, c'est pas gênant d'avoir un Québécois de la trame d'Abraham avec les Astros, puis on espère le revoir
Ça
bientôt.
va être, ça va être le premier rappelé, je suis convaincu.
Yes, merci de votre appui, les gars. C'est super gentil, hein? J'aime votre show. Merci beaucoup.
Pour notre blog, les buts remplis, là, Douglas, c'est toi qui vas être le premier rappelé.
OK, excellent.
Good
Merci
job,
beaucoup.
buddy. Merci
Merci,
beaucoup.
Douglas.
À bientôt. Au revoir.
Bye.
Wow, quelle belle entrevue, hein? Ce qu'on en retient, c'est que les Astros n'ont pas bien utilisé Abraham Toro selon son frère. Honnêtement, je suis un peu d'accord.
Mais c'est ce que j'aime, tu sais. Je suis content, Sly, de cette entrevue-là. Tu sais, mm-hmm. C'est justement ce que je veux aller chercher, tu sais, avec les buts remplis, tu sais, c'est d'aller chercher un peu de l'input, de l'inside, tu sais, qui complète aussi, tu sais, tout ce que nous a dit, tu sais, Douglas, tu sais, c'est super intéressant, tu sais. Puis en même temps, mm-hmm. tu sais, ce que je veux avec ce podcast-là, c'est que ça soit complémentaire à nos boulots. Tu sais, moi, je suis journaliste à l'agence QMI. Tu sais, une entrevue avec Douglas comme ça, tu sais, l'article, tu sais, c'est peut-être moins ce qu'on veut lire, mais c'est ce qu'on veut entendre, tu sais. Là, on a pu comprendre le ton, l'explication, tout ça. Fait que je suis vraiment content. En way door, la bonne première entrevue!
Ah, puis on le sait que lui, là, il a parlé à Abraham. Donc, tu sais, je dis, c'est pas des rumeurs, là. C'est vraiment des faits réels qu'on a. Puis bon, ben, on souhaite à Abraham qu'il va pouvoir commencer sa saison au début du mois de mai. On souhaite qu'il soit rappelé parce que c'est clair qu'avec Alex Brenman, Carlos Correa, Jose Altuve devant lui, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir une job de tous les jours. Mais je veux dire, il a performé à tous les niveaux où il a été, Abraham Toro, et je ne vois pas pourquoi ça serait différent dans les majors.
C'est très bien dit, très bien dit.
D'ailleurs, Ben, on va continuer. On avait parlé un peu des Blue Jays, mais là, on voulait voir un peu nos points positifs et nos points négatifs du début de saison dans le baseball majeur. Exact. Tu avais commencé avec ton point positif, je te laisse aller.
Ah, écoute, un point positif, c'est juste un coup de cœur personnel. 3 en 4, 3 PP hier. Izia Keener Falefa, qui est le joueur d'arrêt-court des Rangers du Texas.
Exact.
Mais ce qui est cool avec lui, là, c'est qu'il est admissible au poste de receveur quand tu le prends dans un pool. Bon, là, je ne te cacherai pas qui est dans mon pool. Puis c'est mon catcher. Donc, 3 en 4, 3 PP. Si vous êtes dans un pool de baseball puis qu'il est sur les joueurs disponibles, aller le chercher pour avoir un bon, joueur au poste de receveur.
Profitez-en parce que c'est la dernière saison qu'il va être admissible au poste de receveur parce qu'il joue à l'arrêt court. Il est le seul, d'ailleurs, sur le depth chart des Rangers du Texas à ce poste-là. Il frappe premier, en plus, pour les Rangers. Donc, c'est rare qu'on voit un receveur frapper premier. Moi, mon coup de cœur, écoute, j'avais deux choix hier. Là, hier, je t'ai dit, je vais peut-être parler de Yermin Mercedes, là, le phénomène des White Sox qui a frappé 8 coups à ses 8 premières présences dans le baseball majeur, ce qui est incroyable. Mais hier, là, quand j'ai vu lancer Shohei Ohtani et surtout le voir frapper, c'était incroyable. Écoute, c'était la première fois depuis 1903, en plus depuis Jack Dunleavy, qu'un lanceur frappait deuxième dans l'alignement offensif d'une équipe. Donc, c'est assez incroyable. Puis en plus, il a frappé un circuit à 451 pieds. Il a frappé la balle à 115 000 à l'heure. Donc, il a parcouru de la distance. Oh, et puis en plus, il a lancé 9 lancers à 100 000 à l'heure, dont un à 101. Il a retiré 7 frappeurs au bâton. Oui, il a accordé 5 buts sur balle. On va lui donner un peu de temps. Là. Il a été blessé l'an passé. Il va se réajuster. Mais bref, du stuff des majeurs, comme on dit. Ouais. Il va être beau avoir joué tout au cours de la saison. Ça fait, on n'en a jamais vraiment vu depuis les années 1900 là, où les lanceurs étaient dominants et en plus venaient frapper, étaient capables de frapper la longue balle. On parle de Babe Ruth et tout ça. On ne comparera pas Ohtani à Babe Ruth, mais on compare le genre de joueur.
C'est intriguant. Intriguant. Exact. Un joueur comme ça, là, tu sais, il faut être incroyable là, pour être lanceur puis frappeur. Là, tu sais, toi, tu le fais là, dans des ligues comme LBSAM, mais tu sais,
mettons dans le baseball majeur. On n'est pas au même niveau du tout.
Lancer dans le baseball majeur, c'est quelque chose. Frapper dans le baseball majeur, c'est quelque chose. Faire les deux, c'est phénoménal.
Dans le même match, il n'a pas pris congé la veille. Je ne suis pas sûr qu'il va prendre congé demain non plus. C'est toute une machine. On se fait rapidement nos points négatifs avant d'aller à notre petite chronique spéciale pour terminer la première émission.
Excellent. Point négatif, écoute, on en a parlé un peu avec notre invité, c'est un peu en lien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun Québécois dans le baseball majeur pour la journée d'ouverture. Ça, c'était la première fois depuis 1999, donc c'est un peu décevant. Tu sais, depuis, il y avait eu Éric Gagné là, qui avait été blessé 2005-2006. En 1999, là, Éric Gagné avait joué, mais n'était pas là pour le début de la saison. Donc, c'est pourquoi c'est la date que je soulève. Là. Donc, ça fait plus de 20 ans que
c'est pas arrivé.
Que c'est pas arrivé, tu sais. Donc, c'est un peu triste. Mais, puis d'ailleurs, tu sais, il y a eu Éric Gagné. Ensuite, Russell Martin qui a eu 14 saisons.
Ben oui. Vous avez pas la question, hein.
D'ailleurs, hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, Danny Boilard, puis m'a demandé est-ce que Russell Martin est à retraite? Puis en fait, la réponse est Russell Martin n'a pas annoncé officiellement sa retraite. Il n'a pas joué la saison dernière.
Non.
Puis il n'est pas sur une équipe cette année. Je sais qu'il y a eu des tractations pour peut-être qu'il joue avec l'équipe canadienne aux prochains Jeux olympiques. Mais officiellement, Russell Martin n'est pas à la retraite. Mais sinon, regarde, il y a plusieurs bons jeunes là, québécois.
Oui, c'est ça. Il y en a pas présentement là, dans le show des Québécois, mais il y en a beaucoup qui frappent à la porte. D'ailleurs, on va essayer d'en faire découvrir le plus possible dans les prochaines semaines via notre podcast.
Je suis obligé, pareil, de faire une parenthèse, là, parce que ça, c'est tout le temps des débats qui reviennent. Tu as Vladimir Guerrero Jr. Qui est né à Montréal. Donc,
on veut parler de jeunes qui ont fait leur baseball au Québec. On peut rester dans le système ici. Là.
En attendant, on peut se l'approprier puis encourager Vlad Junior fils. Ah ouais, donc!
Un demi-Québécois dans le baseball majeur, puis c'est quand même pas n'importe qui.
Non, c'est ça.
Moi, mon point négatif, on va faire ça vite. J'ai vu là, les Cards de Saint-Louis accorder 27 points aux Reds de Cincinnati. Les Cards qu'on voit dominer la division centrale de la Ligue nationale. La relève qui en a arraché, les partants en ont arraché. Disons qu'il va falloir se récupérer du côté des Cards parce que sinon, ça va être une longue saison parce que visiblement, l'attaque va devoir marquer beaucoup de points. Oui, on a tout ce qu'il faut pour le faire, mais je veux dire, on ne peut pas non plus gagner des matchs 9 à 8 à tous les jours. Éventuellement, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Mm-hmm. Maintenant, le segment, on va l'appeler le segment pitch and catch. Moi, je suis lanceur dans la vie, t'es receveur. On a déjà... jouer ensemble, tu as déjà été mon receveur. Donc là, on a passé à un concept qui s'appelle pitch and catch. On a quatre questions. On va choisir un lancer, donc la rapide, une question très directe avec souvent des choix de réponse. Deuxième question, une courbe, c'est une question qu'on ne voit pas venir, qui va nous jeter en bas de notre chaise. La troisième, une glissante, c'est une question peut-être qui peut amener un débat entre nous. Là. Éventuellement, on va falloir débattre, Ben. On se prépare mentalement à ça. Et un changement de vitesse, c'est un genre de quiz.
Là, tu as toutes ces pitches-là dans ton arsenal, toi aussi.
Oui, je suis capable de lancer ces quatre-là. Est-ce que je les lance à la perfection? La réponse, c'est non. Mais on fait du mieux qu'on peut. Mais là, pour cette semaine, c'est toi le lanceur. Donc, dis-moi laquelle des lancers que tu voudrais recevoir. Tu voudrais y aller pour déjouer
le rapport. Regarde. Je garde mon poste de catcher, OK? Mais je te demande une rapide.
C'est bon, ça?
Attends un peu. Je me prépare.
Oh, t'as même pris ton... t'as pas pris ton masque? All right. OK.
Je suis prêt.
OK. La rapide. Voici la question. Qui est le meilleur receveur de la décennie 2010? Dans le fond, de 2010 à 2019. OK, je te donne quatre choix de réponse, Ben, puis tu décides après, c'est quoi ton choix? Joe Mauer, qui est moyenne globale de 294, 71 circuits. Il est allé trois fois au match des étoiles, un gant doré, deux bâtons d'argent et deux présences en série. Deuxième choix, Russell Martin, moyenne de 233, 142 circuits. Deux fois au match des étoiles et sept fois en série. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Troisième choix, Yadier Molina, 287 de moyenne, 121 circuits, huit fois au match des étoiles, sept gants dorés, un bâton d'argent, six présences en série et une série mondiale, ce qui est quand même important. Et mon dernier choix pour toi, Buster Posey, 302 de moyenne, 140 circuits, recrue de l'année en 2010, joueur le plus utile du baseball majeur en 2012, exact. Six fois au match des étoiles, un gant doré et quatre bâtons d'argent. Ton choix, c'est?
Trois World Series.
Oui, aussi. Oui, oui, absolument.
2010, 2012, 2014, les Giants. Absolument. Écoute, 2010, 2019, t'en poses une bonne. Là, c'est une rapide, là, mais ça peut prendre du temps. Pour moi, il y a une cote là, dans... Ah, bouge, t'es rapide, là. Écoute, Joe Mauer, je vais le mettre de côté. Parce que 2010-2019, ses meilleures années de receveur étaient derrière lui. T'sais, plus, c'était DH, premier but. Puis pour moi, un receveur, c'est pas juste la moyenne au bâton. T'sais. Pour moi, un receveur, c'est, exemple, la moyenne de points mérités, des lanceurs, tu sais, qui dirigent.
Absolument. Mais Joe Bauer a joué au premier but aussi souvent dans ces saisons-là.
Oui, exactement. Donc, Russell Martin, tu sais, l'objectif, là, c'est d'être un leader comme catcher qui te permet à ton équipe d'atteindre les séries éliminatoires. Pour moi, c'est le rôle d'un receveur. Russell Martin, 10 séries mondiales en 14 saisons. 10 fois qu'il a été aux séries. Pas 10 exact. Séries mondiales. 10 fois en série en 14 saisons, puis 7 en 10 là, dans la période qui nous préoccupe avec la question. Donc, il est très intéressant. Encore une fois, j'ai un parti pris pour Russell parce que tu sais que j'ai notamment écrit un livre jeunesse sur Russell Martin, donc je l'aime bien. Yadier Molina, tu as parlé de ses 7 gants dorés durant cette période-là, mais je pense qu'il en totalise 9 au total.
Exact.
C'est un gars qui fait les séries souvent. Je pense que
c'est un gars qui joue encore.
Ah oui, exact. Puis Buster Posey, là, honnêtement, Buster Posey aurait été mon choix si ça avait été de 2010 à 2015. J'aurais pas eu le choix, là, 3 séries mondiales. Puis là, répondre à la question finalement, là, après ce long préambule. Autant que j'aime Russell Martin, puis il est vraiment pas loin derrière, mais mon choix, je suis obligé d'y aller avec Yadier Molina.
Oui, c'est un bel. Il joue encore, il performe encore, et il a amené des lanceurs qu'on connaissait plus ou moins à un niveau de vedette. Là,
ouais.
Donc, oui, non, c'est un bon choix. Le mien, c'est Buster Posey. Je pense que c'était la tête d'affiche des Giants pendant tellement d'années. Puis, j'ai pas d'autre argument que ses statistiques pour y aller avec lui. Tant qu'à moi, c'est le meilleur receveur des années 2010. Rien enlevé aux 3 autres, dont Yadier Molina, t'as raison. Mais je pense que Buster Posey s'impose. D'ailleurs,
c'est pour ça que t'as arrêté à 2019. Hein? Parce que l'année passée, il n'a pas joué pour.
Exact, c'est ça.
Comme Ross.
D'ailleurs, on va inviter les gens à répondre. Si vous voulez répondre à la question, nous envoyez votre réponse.
Ouais.
Lesbutsremplis@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre le cas échéant. Ben, c'est terminé. Premier podcast. Ça a super bien été. Entrevue de feu avec Douglas Corot. Pression est défendue et pression qui s'ajoute pour les prochains podcasts de faire encore mieux. Parce qu'on va faire encore mieux. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Là. On a mis l'adresse sur l'écran tantôt, lesbutsremplis@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous parler baseball avec vous autres. Et Ben, je sais que tu tenais à nous laisser avec une phrase de ton grand ami Derek Aucoin, de qui tu écris la biographie d'ailleurs. Donc, je te laisse aller et on se dit à la semaine prochaine.
Mais en fait, j'ai deux petits messages à passer. Premièrement, je voudrais prendre le temps de saluer Alain Gilbert, qui est décédé malheureusement plutôt dans la dernière semaine. Alain, c'est un membre du Temple de la renommée de Softball Québec, puis c'est aussi le papa d'un très bon ami à moi, Stéphane Gilbert, ex-lanceur étoile des Quatre Chevaliers, donc je voulais juste prendre le temps de saluer Alain. Puis deuxièmement, ben, encore une fois, je deviens émotif un peu avec mon ami Derek Aucoin, qui est ici, et voilà. Ouais. Derek, il terminait chacune de ses émissions de radio avec une phrase, puis je veux un peu poursuivre pour lui rendre hommage. Puis ça n'a rien à voir là, avec Alain Gilbert qui est décédé de la maladie à la suite d'un combat contre la maladie. Là. Mais Derek finissait tout le temps ses émissions de radio en rappelant que le suicide n'est pas une option, puis que si vous avez besoin d'aide, besoin de parler, il y a le numéro de téléphone 1-866-APPEL. Je trouve que Derek a toujours été bon pour ces messages-là. Puis si je peux transmettre un peu ce qu'il faisait, je vais terminer nos podcasts comme ça avec le numéro 1-866-APPEL.
C'est parfait. De toute façon, avec la situation qu'on vit présentement, si les gens ont besoin d'aide, plus que jamais, c'est le temps de demander. Ces gens-là sont des professionnels, puis voilà.
Exact.
Fait que Ben, salut. Howie Dion, notre nouveau slogan. On se dit à la semaine prochaine, Ben. Merci.
Merci à toi, Sylvain. Okay. Belle première.
Yes.